Bonsoir et merci d'être avec nous aussi nombreux pour ce nouveau rendez-vous donc du cycle Écrire, écrire pourquoi. Ce soir, et c'est un très grand honneur qu'il nous fait, c'est donc François Cheng qui a bien voulu se soumettre à la question. François Cheng, je ne vous fais pas donc l'injure de vous présenter. J'ai lu quelque part qu'on a dit de vous un jour que vous étiez un démenti vivant à la phrase de Kipling, cette phrase qui dit « L'Orient et l'Occident ne se rencontrent jamais ». Vous êtes en effet, et d'abord, un formidable passeur. Vous avez été naturalisé français dans les années 70, mais vous êtes né en Chine en 1929, dans une famille de lettrés. Vous avez fait vos études à l'université de Nankin, et puis vous êtes arrivé à Paris en 1948, je crois, pour suivre des cours à la Sorbonne. Là, vous vous êtes fixé définitivement dans ce pays. Et depuis, vous n'avez plus cessé de jeter des ponts entre les deux civilisations. D'une part, en traduisant des poètes français vers le chinois, notamment Baudelaire, René Char, Rimbaud, Saint-John Perse, Apollinaire, beaucoup d'autres. Et puis, et peut-être surtout, en tout cas c'est ce qui va nous occuper ce soir, en élaborant une œuvre personnelle très complète, très variée, très importante, des essais sur la pensée, l'esthétique chinoise notamment, des monographies consacrées à l'art chinois, des recueils de poésie, des albums de vos propres calligraphies et bien sûr des romans. Une œuvre qui vous a valu de très nombreux prix et qui vous a conduit à siéger parmi les immortels de l'Académie française depuis 2002. Alors en préparant cette rencontre, vous m'avez dit en substance, c'est pas l'homme qui compte, c'est l'œuvre. Et puis le plus intéressant, c'est d'entrer franchement dans le vif du sujet. Alors, j'ai envie de vous dire, allons-y, plongeons d'emblée et affrontons cette question un peu vertigineuse. François Cheng, vous écrivez, pourquoi ?
Pour le moment, j'essaye de vous donner une réponse un peu globale. Je pense qu'on aura le temps d'entrer plus dans les détails. Mais cette réponse globale demande quand même un petit développement. Je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver de façon tout à fait claire. Au premier abord, bien sûr, je pense que tout le monde est d'accord. On écrit pour essayer de laisser une trace. Parce que chacun de nous constate la fuite du temps, et avec cette fuite du temps, notre vie, jour après jour, se disperse comme poussière au vent. Mais à un niveau plus profond, je crois que, du moins pour ce qui me concerne, on écrit pour essayer d'accéder au sens. Est-ce que on a besoin de sens pour vivre? Probablement pas. Mais avec le sens, je pense que la vie prend une autre consistance, une autre dimension.
Alors le sens, peut-être qu'on peut s'arrêter un instant sur la signification que vous lui accordez. Par exemple, moi, en tant que journaliste, je pose souvent cette question à des auteurs qui me disent, j'écris pour... Alors en général, oui, on écrit pour se libérer de quelque chose ou pour mieux s'expliquer à soi-même l'énigme du monde ou l'énigme de soi, ou alors pour transformer la société si on est un écrivain engagé. Tout cela, vous en conviendrez, ne manque pas de sens. Et pourtant, il ne me semble pas que vous évoquez le même sens.
Pour moi, quand je dis sens, je lui donne un contenu bien sûr plus riche que le simple « qu'est-ce que ça veut dire ?». Donc, le sens, selon mon entendement, est plus qu'une simple définition ou une simple explication. Le sens, dans mon optique, est une issue de vie, une issue vers une plus grande ouverture ou bien vers une plus grande, plus haute élévation. Ici, j'invoque le mot « sens » en français. Dans un petit ouvrage, j'ai pu dire que ce mot est un des diamants de la langue française, un diamant en ce sens que c'est quelque chose de comprimé et qui a condensé en lui d'abord les trois sens qui représentent les trois étapes ou bien les trois étages de notre existence, à savoir sensation, direction et signification. Sensation, bien sûr, c'est à la base, c'est à travers la sensation ou les sensations qu'on acquiert une certaine expérience de vie. Et à partir de cette expérience, ou plutôt cette expérience même, vous pousse, vous oriente forcément vers une certaine direction. Mais dès qu'il y a direction, il y a la possibilité de signification. Parce que, d'ailleurs, une image m'est venue, quand on est perdu dans un désert, on ne sait plus où aller. Et tout d'un coup, on voit à l'horizon passer l'ombre bleue d'un homme de désert, disons. Et bien sûr, irrésistiblement, on se dirige vers lui, on lui fait signe. Et lui, peut-être à son tour, il vous fait signe. Et là, faire signe, c'est déjà une signification. C'est-à-dire, à partir de là, tout d'un coup, la voie de la vie est là. Vous voyez sensation, direction, puis signification. C'est-à-dire, quand on commence à se diriger vers une direction, on fait signe, dans la mesure du possible, à la vraie vie. Et cette vraie vie, à son tour, vous fait signe. C'est là la signification. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec l'écriture? Eh bien, tout ce que je viens de dire, direction, signification, en fait, chez l'homme, c'est une conquête de l'esprit. Parce que tout cela implique, comme tout à l'heure j'ai dit, avec le sens, c'est une issue de vie par laquelle on essaie de tendre vers une plus grande ouverture ou vers une plus haute élévation. Alors, une plus grande ouverture et une plus haute élévation, c'est ce que j'appelle une conquête de l'esprit. Parce que on ne peut pas ni aller vers quelque chose d'ouvert, ni s'élever, c'est-à-dire en se dépassant comme ça, dans sa chambre, devant son miroir. Vous voyez ? Alors, il y a un instrument qui permet à l'homme, à l'esprit humain, de se construire et de se dépasser, c'est le langage. C'est le langage. Et puis la forme la plus aiguë du langage, bien sûr, c'est l'écriture. Parce que le langage et l'écriture, j'en ai fini hein, pour le moment. Parce que le langage, c'est un système d'articulation. Il a fallu cette articulation pour que l'esprit humain peut peu à peu, monter des étages hein, pour accéder à quelque chose de plus ouvert et de plus élevé. C'est là, c'est pourquoi l'écriture, pour moi, c'est aussi un instrument de exploration, de élucidation et, en fin de compte, une possibilité de dépassement. Je fais partie, en tout cas, de ces écrivains. Je ne suis pas un fabricant. Je ne possède pas l'écriture. Par contre, quand je commence à écrire, bien sûr, il y a sûrement quelques thèmes qui me poussent à écrire, mais à partir de là, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est-à-dire une aventure justement pour essayer d'élucider le mystère de notre destin, donc le mystère de notre propre esprit. Hein. Donc c'est dans ce sens que je dis qu'il y a à voir, il y a un lien étroit entre cette conquête de l'esprit et notre langage, et par là l'écriture. C'est sûrement un peu...
Non mais...
Un peu, oui. Mais
on y reviendra, chemin faisant. Oui. On reviendra à l'élucidation et au mystère, mais je voudrais que vous nous parliez un instant des origines de cette découverte. Je crois qu'on peut la situer, en gros, vous aviez une quinzaine d'années, et vous découvrez alors, à travers la littérature, la poésie chinoise, et aussi beaucoup la littérature étrangère, vous découvrez ce qui est, à vos yeux, plus qu'une possibilité d'évasion, dites-vous, vous dites, la littérature se révélait comme quelque chose de vital. Donc, tout de suite et déjà très précocement, un lien très étroit entre la littérature et la vie dont vous nous parliez à l'instant.
Une coïncidence, parce qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'ai rencontré Eric Orsena, qui est mon confrère à l'Académie. D'ailleurs, comme d'habitude, chacun demande vous êtes sur un livre, sur quoi ? Orsena a dit, après avoir traité le problème d'abord des courants et puis du coton, maintenant je suis sur l'eau. Alors, et presque le soir même en rentrant, j'ai essayé de chercher fébrilement dans mes très vieux papiers, parce que ça remonte, maintenant je vais le dire. J'ai retrouvé le premier texte de ma vie. Donc, le texte est là. Hein. J'aurais dû l'apporter d'ailleurs.
Oui, c'est un document d'archive, oui, oui. Vous auriez dit.
Et c'est marqué 1944. Donc, j'avais 15 ans.
C'était sur l'eau ?
Oui, le titre, c'est l'eau, ou bien de l'eau. C'était lors d'un concours au lycée. C'est-à-dire, le lycée, chaque année, a eu un concours de dissertation. Donc, cette année-là, on a donné ce titre, « L'eau » ou bien « De l'eau ». Et j'ai écrit ce texte. Maintenant, bien sûr, j'ai relu ce texte avec beaucoup de gêne, parce que c'est un peu puéril, mais en même temps, avec beaucoup d'émotion. Vous me permettez de continuer un peu ? Oui, oui. Parce que ce texte est composé de 2 parties. Une première partie, j'ai décrit différents phénomènes différentes manifestations de l'eau, par exemple les chutes, les cascades, les étangs, les lacs, le fleuve, ou bien l'eau qui tombe du ciel, la pluie, l'averse, les orages. Mais dans une deuxième partie, à mon très grand étonnement, à cet âge-là, j'avais 15 ans, je me posais des questions, si ce n'est pas trop prétentieux de dire, un peu d'ordre métaphysique. C'est-à-dire, j'ai marqué cet étonnement, parce que c'était pendant la guerre, nous étions dans une province à l'intérieur de la Chine, c'est le Sichuan. Hein, peut-être maintenant, il y a beaucoup de voyageurs qui ont visité la province du Sichuan à l'intérieur. C'est une province au climat continental très brutal, c'est-à-dire l'hiver très froid et l'été d'une chaleur. Donc on transpire, on a toujours soif, et cette soif devient un thème d'ailleurs de mes écrits, comme dans le dit de Tianyi. Et donc, dans cette deuxième partie, je me suis étonné. On a soif. Et pourtant, dans la nature, il y a quelque chose qui nous permet d'étancher cette soif, en l'occurrence l'eau. Donc, j'ai poussé mon raisonnement presque d'une manière inverse. Je dis, c'est peut-être parce qu'il y a l'eau qu'on a soif. Parce que j'en suis arrivé à cette conclusion que la nature ne peut pas engendrer un désir qu'elle ne peut pas combler. Et à travers ça, je vois là, il y a comme un... déjà, j'ai ressenti cette vie comme un don qui vient de très loin, un don inouï, voyez. C'est-à-dire, il y a cette circulation, notre désir est quelque chose. Hein, plus tard, j'ai fini presque, j'ai poussé cette interrogation un peu métaphysique, un peu plus loin encore. Je dis, peut-être, si nous désirons tellement l'infini, c'est peut-être l'infini fait partie de notre dimension, vous voyez. Bon, là, j'anticipe un peu.
Revenons à
mes 15e années. Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Excusez-moi, je suis un peu bavard.
Au contraire.
je me laisse entraîner. Bien. Vous m'avez dit qu'à l'époque déjà, j'ai senti que l'écriture est vitale pour moi. Bon, c'est une expression un peu banale. L'écriture est vitale. Bon, pour tous les écrivains, d'ailleurs, pour tout le monde. Bien. Mais dans mon cas, parce qu'à cet âge-là déjà, j'avais le sentiment que je serais un être toujours en marge. Parce que j'étais un élève assez appliqué au lycée, donc j'ai réussi, parce qu'en 45, donc c'est la fin de la guerre, donc j'ai passé mon baccalauréat, presque assez honorablement. Mais curieusement, à partir de là, je n'ai jamais réussi un examen. C'est-à-dire, il y a cette incapacité dans la vie concrète. Je sentais déjà que je n'arriverais jamais à choisir une étude, une discipline, une formation. Et à partir de là, j'avais conscience déjà que je n'aurais jamais une profession, un salaire fixe, et par là, de fonder un foyer ou d'exercer une... ça peut vous étonner maintenant.
Un petit peu, et je me demandais, est-ce que vous avez un peu la conscience de ce qui vous donnait cette impression d'être en marge ?
En fait, j'ai été toujours un être en marge, et bien sûr, mon exil a accentué cette situation. Par la suite, bien sûr... je me suis inséré dans la vie française, je suis devenu français. Et même maintenant, ça peut vous étonner, je suis toujours un être en marge. La France m'a accueilli, bien sûr, je dirais même que je lui dois tout, c'est la France qui m'a fait. Hein. Mais un être comme moi, qui se débrouille très mal dans la vie pratique, je ne sais pas comment faire, et je n'aurais jamais été, par exemple, couronné par une institution qui honore un savant formé qui a fait fructifier son savoir. Par exemple, une université ou collège de France ou une académie de spécialistes. Heureusement qu'en France, il existe une institution absolument unique au monde et qui a unique au monde, c'est l'Académie française qui accueille
des êtres en marge.
Comment ?
Pardon.
Non, non, qui accueille des gens indéfinissables, qui plus ou moins a accompli quelque chose d'original dans la vie. Je le dis très sincèrement, il ne faut pas que les gens croient que je joue une fausse modestie. C'est exactement la réalité. Je suis un être en marge et aujourd'hui encore.
Mais alors revenons un tout petit peu en arrière. Parce qu'on,
Donc, pour répondre en une phrase, donc l'écriture était à l'époque déjà, je sentais que c'est quelque chose qui dépendait de moi. Vous voyez, c'était ma seule planche de... une bouée de sauvetage, à peu près. Oui.
Alors donc,
oui.
Vous avez entre 15 et 19 ans, vous êtes encore en Chine, et vous écrivez déjà à cette époque-là ?
Voilà, d'abord, il y a ce premier texte sur l'eau.
Oui, après l'eau.
Oui. Après, j'ai écrit surtout des poèmes, mais sans avoir aucune confiance en moi. Parce que là aussi, autour de moi, il y a des... On a des camarades, on avait des camarades très forts en écriture. Tandis que mon écriture est toujours un peu à part, un peu inclassable. Hein. Et puis, bien sûr, j'ai admiré des écrivains, j'ai admiré leur art d'écrire. Tandis que moi, j'avais aucune confiance. Mais en même temps, je me cramponne à cela. C'était à peu près ce que... j'étais capable de faire, voilà.
Mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question tout à l'heure, quand je vous demandais à quoi est-ce que vous attribuez au fond du fond ce manque de confiance dont vous avez suggéré qu'il vous a un petit peu suivi, que vous vous sentiez toujours un petit peu en marge, y compris aujourd'hui.
Cette conscience d'être en marge m'a transformé en une sorte de témoin. C'est-à-dire, à partir de là, j'ai toujours essayé de me situer au plus bas niveau de l'existence.
L'humus.
Y compris dans le dit de Tianyi. Tous mes personnages, par exemple, mes parents avaient une situation un peu plus aisée, plus haute que les personnages, que le père et la mère que j'ai décrit là-dedans. C'est-à-dire, j'essaie toujours de... Par contre, ces personnages, je les ai connus aussi, hein, donc ce n'est pas inventé non plus. En un mot, j'ai tendance à essayer de situer mes personnages le plus bas possible. Et moi-même aussi, en tant que personnage, j'essaie toujours de me situer, parce que dès cette époque-là, tout en considérant l'écriture comme... ma planche de salut, mais en même temps, ma personne, j'ai décidé de devenir ce témoin de l'humain. Ça, c'est une attitude constante en moi, aujourd'hui encore. Hein. Par exemple, maintenant, je suis en train d'écrire mon troisième roman, et dès que je commence, je ne suis pas comme ces écrivains qui, chaque matin, trouve sa table avec la page blanche bien étalée et puis tout bruit éteint, on se met à écrire. Non, moi, dès que je commence un roman, j'entre en sacerdoce, c'est-à-dire je me situe à nouveau au plus bas niveau de l'existence pour pouvoir recueillir tout ce que je peux, voyez, parce que c'est là... C'est à ce niveau le plus bas que se trouve l'humus et tout quand un arbre laisse tomber ses feuilles regagnent l'humus pour renaître éventuellement. Donc c'est toujours là que j'essaye de me situer. Oui.
Humus et humilité, dont vous m'avez fait remarquer que c'était la même racine.
C'est pourquoi, là, j'espère que... Parce que quand on parle de l'humilité, c'est encore une fausse modestie. Tandis que pour moi, l'humilité est une posture avantageuse. Parce que d'abord, on ne risque plus de retomber, vous voyez. Et puis, on recueille tout. Hein. Si vous flottez en air, vous, bien sûr, vous ramassez certaines choses, mais là, on recueille les vrais trésors de la vie. Voilà, c'est
Alors, on va continuer à tirer le fil pour suivre un peu le cheminement de l'écrivain.
Excusez-moi. Je vous...
On peut s'arrêter sur le chemin, autant que vous voulez.
Non, je vous écoute maintenant.
Alors oui, donc nous arrivons dans les années 49-50 et vous-même vous arrivez en France et là vous dites que vous affrontez une sorte de drame passionnel qui est en fait le drame de tout exilé, j'imagine, et qui consiste à être un peu écartelé entre deux cultures, deux langues. Alors je voudrais que vous nous parliez de ces moments de contradiction, de déchirement peut-être qui ont été les vôtres. Et particulièrement, alors je sais que ça s'est fait graduellement, mais quand même particulièrement au moment d'opter pour une langue d'écriture qui finalement ne sera pas votre langue maternelle. Lourde décision.
Oui, lourde décision et une longue histoire, parce que c'est une histoire qui a... puisque vous avez annoncé mon âge, ma date de naissance, il suffit d'un peu de calcul... pour savoir que j'ai passé presque 58 ans en France. Donc c'est une longue histoire. Disons que, pour faire bref, il y a les 25 premières années. Là, bien sûr, c'est une époque de tâtonnement, de tergiversation, et je dirais même sur le plan de l'existence de perdition. J'aurais pu me perdre de mille manières, et effectivement, j'étais un jeune homme perdu. Mais donc, à partir des années 60 seulement, presque 10 ans après mon arrivée, je commençais à posséder mieux le français. Donc, il y a à ce moment-là, bien sûr, ce besoin d'écriture. Donc, je me suis mis à écrire en chinois, bien sûr. J'ai envoyé des textes à Taïwan ou à Hong Kong. Et puis, je me suis mis à traduire des poètes en France, poètes français en chinois, mais de façon assez systématique. C'est-à-dire, j'ai commencé par le 19e, à commencer par Victor Hugo, et après Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Laforgue, Apollinaire, et puis les surréalistes jusqu'au moderne, hein, comme Michaud, comme Saint-Jean Perse, comme René Char. Donc, ça a été un travail de fond qui a eu beaucoup d'écho auprès des lecteurs chinois de Taïwan et de Hong Kong à l'époque. Et puis, bien sûr, ça a été une formation extraordinaire pour moi-même, parce que je suis entré dans l'univers de chacun de ces poètes. C'était je continue un peu.
Bien sûr.
Ah, je continue. Bien.
On est tous
suspendus. Donc, au début des années 70 maintenant, grâce à quelques rencontres d'ailleurs, avec des intellectuels français. Alors, petit à petit, j'étais déjà à l'époque dans un cadre plus ou moins universitaire. Donc, toujours est-il qu'on finit par me commander un ouvrage, parce que j'ai commis un petit travail pour une sorte de mémoire, vous voyez, de maîtrise. À ce moment-là, j'ai commencé à appliquer un peu la méthode d'analyse structuraliste. Et donc, ça a attiré l'attention de quelques personnes comme Roland Barthes ou comme Julia Kristeva. Donc ils m'ont présenté au directeur des éditions du Seuil. Donc ce directeur des éditions du Seuil, c'est François Val, qui m'a fait confiance. Il dit, je vous donne carte blanche, donnez-moi un ouvrage sur l'écriture poétique chinoise. Donc j'ai mis 3 ou 4 ans à écrire cet ouvrage. Et donc finalement, l'ouvrage est sorti en 77. Et 2 ans après, j'ai sorti un autre ouvrage. Est-ce qu'on m'entend bien ? On m'entend bien ? Oui, qui est vide et plein. Ce sont 2 essais qui ont eu beaucoup d'écho, qui ont intéressé beaucoup de gens. Donc, mais ces 2 livres-là font partie encore de ce qu'on appelle un travail universitaire. Et ce genre de travail universitaire est à peu près à la portée de quelqu'un qui a étudié le français, qui a acquis une certaine méthode d'analyse, etc. Mais c'est seulement à partir des années 80 que j'ai commencé à entrer dans une création plus personnelle.
Et là, pour un travail d'artiste, quelle est au fond la raison qui vous a fait choisir le français ?
Voilà. Là aussi... d'abord, donc à partir des années 80, ça faisait 30 ans que je vivais en France. Donc d'abord, le fait de vivre en France, j'étais environné des Français et on parle français à longueur de journée autour de moi. Donc c'est un peu naturel que je choisis. Mais ça, c'est une réponse un peu superficielle. À un niveau plus profond, il faut dire ceci. Ordinairement, un exilé a cette expression courante. Un exilé dit « j'ai refait ma vie dans un autre pays, ici en l'occurrence en France ». Moi aussi, j'utilisais cette expression « j'ai refait ma vie en France ». Mais ordinairement, chez un exilé qui a, comme ça, refait sa vie dans un autre pays, en général, ça signifie qu'il a trouvé un job, donc il a assuré son existence dans ce pays, tout en restant dans la nostalgie. Vous voyez, c'est le cas de beaucoup d'exilés, de son passé, de sa culture, de ses habitudes. Bien. Dans mon cas, quand je dis j'ai refait ma vie, c'est vraiment parce que j'ai traversé toute cette période de perdition et de interrogation. Quand je dis refaire ma vie, c'est de renaître à la vie. En tant que quelqu'un de déjà transformé. Je n'étais plus déjà, je parle des années 80, ce jeune Chinois débarqué en France comme ça, complètement perdu. Alors, renaître à la vie en tant que quelqu'un de transformé. Rien de plus radical que d'épouser une autre langue. En épousant cette autre langue, encore une fois, en l'occurrence, c'est le français. J'entre complètement dans une autre culture qui est un avantage pour moi. D'abord, il s'agit du français, c'est une grande langue. Et à travers cette langue, c'est la culture française. C'est-à-dire, cette langue a véhiculé des siècles de création. Il n'y a pas que la langue même, vous voyez, en épousant cette langue. Donc, grâce à cette langue, je suis entrer complètement dans une autre culture. Et on peut, à ce moment-là, enfin, à ce point-là, on peut me demander, et dans ce cas, est-ce que vous n'avez pas risqué de vous perdre complètement, de perdre votre âme? Bien sûr que non. Au contraire, en entrant entièrement dans une autre culture, non seulement on devient autre, mais, comme je l'ai dit depuis toujours, la meilleure part de l'autre vous fait connaître votre meilleure part. Parce que la meilleure part appelle la meilleure part. Comme l'amour appelle l'amour, la beauté appelle la beauté. Et donc, alors, en épousant cette autre langue, j'ai gagné un double avantage. C'est-à-dire, en devenant, en assimilant entièrement l'autre, en devenant entièrement autre, et en devenant entièrement moi-même. C'est-à-dire, en ma meilleure part. Hein. Donc là, il y a cet avantage-là. Mais je pense que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je pense que je peux ajouter ceci. Les années 80 et puis 90, j'ai quel âge ? J'avais quel âge ? 90.
C'est pas grave.
J'avais déjà 60 ans, non ? 90. 50 ans. Non, 90.
90, vous aviez 50. 60.
Hein?
60 ans.
60 ans, voyez. Donc, mon œuvre est une œuvre tardive.
Vous étiez dans la fleur de l'âge.
C'est-à-dire, quand je suis entré dans ma création personnelle, je ne suis pas comme cet écrivain, un jeune écrivain. D'ailleurs, Florence, je sais que vous êtes écrivain aussi. Donc, vous êtes dans une autre posture que moi. C'est-à-dire, un jeune écrivain qui commence à écrire, il est porté par cet élan plein de ces choses qu'il habite, qu'il essaye de, voyez, de extérioriser, de exprimer d'une manière spontanée, presque de manière prime sautière. Tandis que moi, je suis cet homme déjà qui a beaucoup vécu, double vie. Non, je ne mène pas une double vie, mais dans le sens de double vie, dans le sens de... Bon, et encore que un écrivain, il faut toujours se méfier, hein, il y a toujours double ou triple vie, bon, mais ça c'est une autre. Alors, donc, je suis un écrivain tardif. Donc, ma création est une manière de... Une manière, si ce n'est pas prétentieux, c'est la manière proustienne, un peu comme Proust qui, en fait, qui est entré dans sa création tout à fait à la fin de sa vie. Et lorsqu'il a posé sa plume, il a disparu. Bon. Donc, à la manière de Proust, ma création est une tentative de repenser la vie et de recréer la vie, mais avec une sorte de distanciation nécessaire. Or, la langue française est une langue de distanciation. Ça, ce soir, probablement, on a... parce que probablement, on n'aurait pas le temps de développer tout à fait ça. Essayons. D'ailleurs, il y en a qui ont assisté à un dialogue entre moi et le professeur Michael Edwards, qui enseigne au Collège de France, qui donne un enseignement sur la littérature anglaise. Il m'a invité Et on a essayé de comparer le génie de chaque langue. Bien sûr, entre lui, c'est l'anglais et le français. Et puis, il m'a interrogé sur le chinois et le français, etc. Et Michael Edwards avait une phrase très célèbre parce que il a cité un vers tiré d'un poème très célèbre en anglais. Le poème décrit quelqu'un qui est tombé dans l'eau, dans la Tamise, qui essaye de nager et de regagner la berge. Alors, le vers dit en anglais, hein, he swim back to the shore. Hein, en anglais, d'ailleurs, c'est au passé, he swam back to the shore. Bon, donc il dit en anglais, c'est une langue très, très pratique, très enfin, selon lui, hein, c'est pas moi, qui suit l'action, parce que l'ordre des mots est pratiquement l'ordre de l'action. He swam back to the shore. Donc, il nage, retourné à la plage. Et il dit en français, il a cité une traduction de ce vers, donc, il regagne la rive à la nage. Il regagne la rive à la nage. Là, il y a une distanciation. Ce n'est plus comme en anglais, he swam back to the shore. En français, bien sûr, on aurait pu dire il nage et retourne vers la plage. Mais en bon français, on dit il regagne la rive à la nage. À la nage, c'est déjà une nominalisation. Ce n'est plus l'action dans ces séquences successives. Donc, le français est une langue, à travers cet exemple, le français est une langue, dans ce cas-là, hein, il regagne la rive à la nage, on n'est plus dans la position de ce nageur. Parce qu'en anglais, vous êtes ce nageur. He swam back to the shore. Tandis qu'en français, celui qui est tombé dans l'eau était déjà sorti de l'eau. Il est peut-être sur un rocher en train de se sécher. Et donc, il dit, il repense après coup. Il regagna la rive à la nage. Ah, de quelle manière? À la nage. Bon. Alors, donc, c'est une langue de distanciation. En sorte qu'un Français est quelqu'un qui est toujours en train de penser sa pensée. Par exemple, quelque chose arrive, donc vous devez le dire. Ah, il dit, mais il vaut mieux le dire comme ça. Donc, il allait dire quelque chose et en même temps, il a ce réflexe instinctif. Hein. Pour un Français natif, on ne se rend pas compte, on ne s'en rend plus compte. On dit, ah, il faut, donc, un Français est tout le temps en train de reformuler sa pensée, c'est-à-dire toujours en train de penser sa pensée.
Mais alors, François Cheng, c'est très intéressant. Et la question qui vient immédiatement, naturellement, c'est, bien qu'un peu théorique, est-ce que vous pensez que vous auriez élaboré une œuvre différente en chinois ? Ce qui m'évoque cette question, c'est quand vous parliez des exilés tout à l'heure, et je pensais à un autre écrivain exilé fameux qui s'appelle Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature, et il disait toujours, il écrivait à la fois en yiddish et en anglais, j'ai pas du tout édifié la même œuvre dans les deux langues. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'en l'occurrence, vous auriez pu écrire une œuvre différente, dans une langue différente ?
Bon, oui. Donc, pour terminer ce que je venais de dire, pourquoi j'ai évoqué cette spécificité, c'est parce que cette langue que je qualifie de distanciation m'oblige justement de toujours repenser ma pensée.
Donc, ça a façonné
qui est
votre
un avantage
façon de
penser. Pour moi. Oui. Oui, qui est un avantage pour moi. Donc, je suis à même de répondre. Probablement, et puis, il n'y a pas que cette langue. J'ai dit que cette langue véhicule toute une littérature. depuis La Princesse de Clèves, n'est-ce pas, jusqu'à tous les romans français, Stendhal, Balzac, Flaubert, et puis jusqu'à à Proust, bien sûr, c'est ma grande référence. Il y a cette littérature analytique, parce que ce français qui oblige à repenser, c'est une langue de distanciation qui vous oblige à toujours analyser de manière de plus en plus fine, nuancée. Vous voyez, on fouille les détails et tout cela. Et donc, ça a été un bienfait pour moi. Donc, ça a sûrement influencé, marqué ma création romanesque, sûrement, ma narration. Par contre, pour répondre à votre question, c'est dans le domaine poétique que j'ai pu avoir des regrets ou des hésitations. Je pense que si j'avais continué à écrire en chinois, j'aurais sûrement créé une œuvre poétique en jouant avec beaucoup de souveraineté ma propre langue, sur ma propre langue, vous voyez, le chinois. Bien. Maintenant, j'ai opté pour le français. Donc, je suis allé vers une autre aventure qui est tout aussi valable pour moi. Hein? Peut-être je ne peux pas jouer avec le français ou même casser cette langue comme beaucoup de poètes contemporains le font. Mais heureusement, dans le domaine poétique, il y a de multiples demeures. Hein, chacun peut apporter une musique, une vision, un langage aussi, voyez. Donc, dans ce domaine, ce que j'ai perdu en chinois, j'ai peut-être gagné autrement en français. Mais je continue encore un peu, parce que l'autre jour, vous m'avez dit que vous avez lu ma brochure sur le dialogue, oui. Une passion pour la langue française.
Justement, j'y pensais. Vous parlez de l'ivresse, de renommer les choses à neuf, comme au matin du monde, dans ce dialogue.
Voilà. Oui. Donc, voilà.
Il y a aussi une part de jubilation, dans le fait
jubilation.
De faire table rase.
Jubilation. Parce que j'ai dit, justement, abandonner sa langue maternelle, c'est un sacrifice énorme. Mais en même temps, cette ivresse, cette jubilation de renommer les choses à neuf, comme au matin du monde, et à un âge avancé. Ici, si vous m'accordez encore, j'entre un peu dans des détails un peu plus concrets. Nommer les choses pour éprouver le pouvoir extraordinaire de nommer les choses, il faut que chacun remonte jusqu'à sa prime enfance. Parce que à cet âge-là, on commence à éprouver chaque fois pour la première fois une sensation. Et cette première sensation est aussitôt reliée à un son, puisque les parents disent « ça s'appelle ça ». Ah, et désormais, son désir de cette sensation est lié à ce son. Vous voyez, prenons les fruits, par exemple. Quand un enfant mord pour la première fois dans une pomme, donc il y a cette chose un peu croquante, un peu acide qui fond dans sa bouche. Et après, il dit « pomme ». Alors, le mot « pomme », c'est à partir de là, toute sa vie, ce désir de cette sensation est incarné par ce son pomme, bien, de même orange. Tandis que pour moi, bien sûr, la sensation, je dis pingouo, hein, pour le croquant et acide, ce quartier juteux qui fond dans ma bouche, l'orange, je dis juteux. Encore que j'aurais préféré, pour nommer l'orange, en français on dit orange et en chinois on dit juteux. Eh bien moi, j'aurais préféré orange. Parce que orange, phoniquement, évoque quelque chose de rond, qui se donne comme une offrande. Orange. Ça, c'est pour moi beaucoup plus évocateur que le... Alors, donc, nommer les choses à neuf. Là, il y a une extraordinaire jubilation. Tout d'un coup, d'ailleurs, une chose me vient à l'esprit. Vous avez au supermarché, pendant un temps, le client devait peser ses fruits lui-même, n'est-ce pas? Parce qu'on a, installé une sorte de balance avec une liste de fruits. On met les fruits sur la balance. On doit appuyer sur le nom du fruit qu'on repère dans la liste. Et puis le prix est sorti. Bon. Et ça remonte à il y a 15 ans, disons. Bon, alors un jour, j'ai pris des fruits, un type de fruits que je ne connais pas. Alors j'ai mis dans le sac, alors je cherche le nom, je ne le trouve pas. Alors il y avait une jeune dame, pas loin, qui était en train de choisir des légumes et tout ça. J'ai dit, madame, excusez-moi, dites-moi, comment on nomme ce fruit? Elle a souri. Elle a dit d'une voix chantante, nectarine. Ah. Alors, à partir de là, bien sûr, d'abord, ce nom musical. Donc, quand je mange une nectarine, bon, ce mot est... Et puis, je ne peux jamais m'empêcher de penser au sourire radieux
de la dame.
De la dame. Et de sa voix cristalline, nectarine.
Et comment dit-on nectarine en chinois?
Non, donc... en un mot, toute langue est riche et chacun peut tirer des richesses inépuisables d'une autre langue. Hein.
Non, mais c'est intéressant vous abordiez ce jeu de correspondance, parce que là, c'est entre les sensations auditives et le mot. Mais j'avais repéré que quelque part, vous écrivez qu'un grand nombre de mots français vous font penser à des idéogrammes.
Oui, ça, je l'ai développé, mais je ne sais pas si vaut beaucoup.
Non, c'est
beaucoup de mots, hein, beaucoup de mots. Bon, j'ai parlé de échancrure, n'est-ce pas?
Voilà.
Échancrure. Et d'ailleurs, j'ai trouvé échancrure parce que c'est échant, c'est quelque chose qui s'ouvre, et crure, c'est quelque chose qui se resserre, n'est-ce pas? Échancrure, j'ai parlé de ces robes très décolletées des femmes. Ça s'ouvre et en même temps, ça se resserre. Bon, échancrure, j'ai trouvé un autre mot qui est le contraire, c'est-à-dire quelque chose qui se resserre avant de s'élargir. C'est estuaire, vous voyez, estuaire, pour moi, c'est le fleuve, tout d'un coup, à un moment donné, se resserre avant de se jeter dans la mer. Estuaire, pour moi, c'est... Donc, phoniquement, ce mot évoque la chose de manière presque idéographique, vous voyez. Donc, c'est ma manière de m'investir dans les mots français, oui. Alors, dans ma poésie, oui. Oui.
Je trouvais que c'était une belle idée. Et donc, on va élargir. Voilà. À la manière de l'estuaire, on va élargir un peu notre propos, parce qu'on s'était dit qu'on aborderait le chapitre de la spiritualité. Et voilà, la question que je voulais vous poser, c'est dans les 5 méditations sur la beauté, vous parlez d'emblée de la coexistence du phénomène du mal avec très, très imbriqué dans l'idée même de beauté. Et vous écrivez « Je suis persuadée que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant, d'un côté le mal, de l'autre la beauté. » Je voudrais que vous nous parliez de mal, de vérité, de beauté, de spiritualité. Voilà, la question n'est pas tout à fait formulée. Elle est très ouverte et vous pouvez en faire ce que vous voulez.
Ah. Oui, je suis obligé de vous répondre parce que c'est mon dernier ouvrage paru. J'ai dit qu'il y a deux grands mystères qui nous hantent. En fait, tout est mystère. Hein? L'univers, l'existence de l'univers, c'est un mystère. Notre existence est un mystère. Le fait que ce soit... On est là tous ensemble. Ce n'est pas évident, puisque la vie même, selon une certaine thèse, n'est que la rencontre de hasard de quelques éléments chimiques. Et puis un beau jour, tiens, ça a pris vie et ça s'est développé. Et donc, et pourtant, au sein de ce hasard extraordinaire, il y a cette réunion d'être ensemble. Mais pour moi, il est deux mystères extrêmes, parce que ces deux mystères-là se trouvent aux deux extrémités de notre réalité, y compris l'existence de l'univers. Donc, d'un côté, le mal, et de l'autre côté, la beauté. Et déjà, pour ce qui est de la beauté, beaucoup de lecteurs m'ont demandé, en général, on oppose la beauté à la laideur et vous l'opposez immédiatement au mal. C'est parce que la beauté, pour moi, est un bien et non pas une simple qualité esthétique, un ornement qu'on vient ajouter à notre existence. La beauté est pratiquement le bien suprême de notre existence. C'est un peu pour cela qu'on vient au monde, qu'on s'attache à la vie. Bon, donc, pour moi, il y a ces deux mystères extrêmes. D'abord, est-ce que je développe un peu ou bien vous avez des questions?
Non, je vous en prie.
Oui. D'abord, le mal. Le mal, tout le monde le connaît. Mais il y a toutes sortes de mal, n'est-ce pas? Les calamités naturelles, les maladies qui causent des souffrances. Mais le plus grand mal, le mystère le plus insondable, c'est le mal que l'homme fait à l'homme. Dans la nature, on sait qu'il y a cette chaîne darwinienne, la lutte pour la vie. Il y a une sorte de cruauté permanente. Les animaux, pour survivre, s'entre-dévorent. Donc, l'homme doit être cet être, puisqu'il est doué d'esprit. C'est-à-dire, doit être... ce seul être capable de rompre la chaîne darwinienne, encore une fois parce que c'est un être d'esprit. Or, c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire dans l'ordre de la cruauté, aucun animal n'est capable d'atteindre ce que l'homme fait à un autre homme ou aux autres hommes, parce que l'homme est cette... être énigmatique, doué d'intelligence et de liberté. Et avec ces deux attributs, quand il commence à tendre vers le mal, il peut atteindre une sorte d'ingéniosité qui lui permet de creuser des abîmes sans fond. C'est-à-dire, là, il y a un mystère. Et surtout, aujourd'hui, on est d'accord, cet être humain dans l'univers qui est issu de l'ordre de la vie, hein, nous sommes issus de l'ordre de la vie, et pourtant, tout d'un coup, on en arrive à ce point qu'on est capable de détruire l'ordre de la vie même, duquel nous sommes issus, encore une fois. Là, il y a vraiment un mystère extrême. La beauté, c'est la même chose. J'ai dit que l'univers n'est pas obligé d'être beau. Parce que si vous dites que la vie, ce n'est qu'une rencontre fortuite de hasard entre quelques éléments chimiques et tout d'un coup ça a collé, hop, la vie est là. Dans ce cas, on peut imaginer un univers uniquement fonctionnel, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne. Hein, une masse ou un ensemble de choses qui se meuvent ou qui se meuvent indéfiniment, voyez, de façon anonyme et indifférenciée, indéfiniment. Donc, un univers uniquement fonctionnel, sans qu'aucune idée de beauté ne vienne l'effleurer. On peut imaginer cela. On a compris, là, on n'est pas dans l'ordre de la vie, mais vraiment dans une sorte d'ordre de repos, ou bien alors dans un ordre concentrationnel, parce que les camps de concentration du XXe siècle nous ont montré qu'on est réduit à un numéro indifférencié, c'est-à-dire les uns des autres. Et là, et ça marche, ça couille, ça, on a compris qu'on n'est pas dans l'ordre de la vie. L'ordre de la vie exige qu'il y ait différenciation des éléments. Et cette différenciation, en évoluant, en se complexifiant, aboutit à la singularité de chaque être. Le fait est là, puisque cette immense aventure de la vie a abouti à chaque herbe, à chaque fleur, et chaque fois différente, et à plus forte raison à chacun de nous. Tout à l'heure, je parle de nomination, parce que la nomination est possible parce qu'il y a cette vérité qui est fondée sur l'unicité des êtres. Et à partir de là, chaque être, en son unicité, n'est plus une figure parmi d'autres figures, un numéro parmi un autre numéro, mais une présence parmi d'autres présences. Et pour moi, c'est le commencement de la beauté. C'est une fleur, c'est pas une fleur artificielle absolument identique aux autres. Donc, c'est le commencement d'ailleurs du langage, c'est le commencement de l'amour aussi, hein, tout cela. Donc, là, il y a un mystère. L'univers n'est pas obligé d'être beau, et pourtant, cet univers n'est pas resté cet univers fonctionnel dont je viens de parler. Il a abouti, d'un côté, il y a ce mal qui nous ronge, et d'un autre côté, il y a cette magnificence, cette splendeur, hein, une nuit étoilée. Voyez, le soleil se lève tous les matins. Un visage humain qui est un miracle, le visage de la femme, c'est un miracle. C'est-à-dire, à partir de cette rencontre hasardeuse et improbable entre les produits chimiques Et puis, il y a des matérialistes cyniques qui disent « mais ce n'est qu'une moisissure sur la surface de la planète ». N'empêche que cette moisissure, un beau jour, est arrivée à ce visage humain.
Sur le visage, je vous interromps, mais il y a ces lignes que vous citez, page 27. « De chaque visage humain rayonne une transcendance impossessible qui nous enveloppe et nous traverse. Cette transcendance n'est pas celle d'une expression psychologique particulière, mais celle qu'implique en chaque visage sa qualité d'être, sa dimension métaphysique. »
Oui, parce que aucun visage ne ressemble à un autre, donc il est unique et irremplaçable. Et à cause de cette unicité et de cette irremplaçabilité, il est une transcendance. Bien sûr, mais cette transcendance probablement répond à une autre transcendance. Parce que sans cette garantie d'une autre, on ne serait pas cette transcendance, justement. C'est pourquoi je dis que il y a... Est-ce que cette moisissure est devenue peau, est devenue ce visage, cette Mona Lisa, un beau jour par hasard, au petit bonheur, la chance, ou bien cette chose est contenue dans la matière originelle, déjà, comme une promesse. C'est-à-dire, du moment que l'univers est, elle ne peut pas ne pas aboutir un beau jour à cette splendeur d'un ciel étoilé, éclairé par une lumière mystérieuse, et aboutit dans l'ordre humain à ce visage qui est comme une sorte de un don miraculeux, vous voyez. Donc, chaque être en soi, en son unicité, est une transcendance, mais qui est probablement garantie par une autre transcendance, qui tient la promesse et qui ne trahit pas, vous voyez.
Et pourtant, il y a la menace du mal partout. Et vous, cette phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde », vous la mettez au style interrogatif. La beauté sauvera le monde.
C'est pourquoi notre liberté implique une responsabilité extraordinaire. Bien sûr, tout le monde réclame la liberté. Mais cette liberté est assez effrayante si cette liberté n'est pas fondée sur une responsabilité. Parce que l'homme, encore une fois, est cet être étrange dans l'univers. Nos carnages ont atteint un degré que aucun astre est capable d'imaginer. Bien, donc l'homme, cet être doué d'intelligence et de liberté, il a une responsabilité, parce qu'à chaque moment, je peux bifurquer vers le mal et vers le bien. À chaque moment. En sortant d'ici, je dis, tiens, je vais faire ça, ou je vais faire ça. Et là, d'où vous avez prononcé le mot spiritualité. Parce que quand je parle de responsabilité, ça implique notre dimension éthique. Bon. Donc l'homme est cet être qui possède quand même plusieurs registres. Hein, quelle que soit notre manière de concevoir la chose, il y a l'ordre physique, il y a l'ordre quand même du cœur et éthique aussi. Mais je crois qu'au-delà de l'éthique, il y a encore une dimension spirituelle qui est indispensable, parce que éthique, bien sûr, c'est déjà extraordinaire, qui nous permet justement de ne pas verser dans le mal, de, dans la mesure du plus possible, de vivre dans une certaine harmonie, hein, un certain respect mutuel, etc. Mais ça fait partie encore de l'ordre du devoir. Mais la spiritualité est ceci, c'est-à-dire, c'est cette dimension, j'ose prononcer le mot sacré ou divine, absolument pas au nom de quelques besoins d'une illusion ou un besoin d'une consolation. C'est-à-dire, c'est une dimension indispensable pour que l'humain peut atteindre la pleine mesure de sa potentialité et de sa virtualité. Ça, Platon l'a déjà compris. Il dit que au-delà de l'humain, c'est le divin. Et le divin est indispensable à l'humain. Parce que si vous fixez le critère à l'intérieur de l'humain, dans ce cas, on sera toujours plus ou moins humain. Et quand on est plus ou moins humain, c'est comme si on est plus ou moins bien, on est déjà pas trop loin du mal. Et plus ou moins humain, on est déjà pas trop loin de la bestialité. Donc, si vous fixez notre critère de valeur à l'intérieur de l'humain, ce humain ne peut jamais devenir vraiment pleinement humain. C'est-à-dire d'atteindre la plénitude de sa potentialité et de sa possibilité. Donc, il faut bien qu'il y ait cette autre dimension pour que l'humain puisse aller jusqu'au bout de sa voie, voyez-le. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que l'homme est cet être d'esprit. C'est justement parce que ce n'est pas encore un être déjà complètement définissable et cernable. Parce qu'un chien ou un porc, à peu près, encore que peut-être ils ont des velléités, mais en gros, un chien se contente d'être un chien. Il ne rêve pas de devenir autre chose. Un porc se contente d'être un porc, etc. Mais l'homme et cet être d'esprit, il est encore en plein devenir. Alors, étant en plein devenir, justement, il faut fixer une perspective, situer cette aventure de l'humain dans un contexte plus grand que lui.
Mais vous avez
un contexte plus grand que lui, oui.
Et justement,
parce
vous
que
avez...
notre destin peut-être fait partie d'un destin plus grand que nous, oui.
Et quand vous disiez tout à l'heure aller jusqu'au bout de sa voix, qu'est-ce que vous entendez exactement ?
Là, justement, je ne peux pas donner une réponse. Je viens de parler de la nécessité de cette dimension. Quant à sa voix, je suis comme tout un chacun en plein recherche et en plein voix, V-O-I-E, que j'essaye de incarner par une voix, V-O-I-X, hein, etc. Mais de là à... personne n'est capable, d'entre nous, est capable de se poser en guide ou en moins que d'autres.
On va peut-être s'arrêter momentanément sur cette idée de voix. Et est-ce qu'on fait des grands signes ? Est-ce que...
C'est parce que je termine pour essayer de... parce que la vraie vie est voix, V-O-I-E. Donc, ça rejoint ce que j'ai dit au début. Pourquoi on écrit ? C'est pour accéder à un sens. Et le sens, dans mon optique, c'est une direction qui essaie de faire signe à quelque chose de plus haut et de plus ouvert. En fait, on fait signe à la vraie vie. Et parfois, la vraie vie nous fait signe aussi. C'est en ce sens que, c'est pourquoi en français on dit signification. Donc je rejoins un peu mon propos, pourquoi on écrit.
Voilà la boucle bouclée donc. Est-ce que vous auriez des questions, un tout petit peu de temps pour quelques questions ? Sinon, je crois qu'on peut s'arrêter sur ces... Non, je sais pas, j'ai du mal à voir. Ah si, voilà.
Oui, merci encore pour cette fabuleuse rencontre, parce que vraiment, je ne sais pas comment le ressentent les autres, mais moi j'ai été très touchée, très émue de vous entendre. Cette humilité que vous revendiquez me semble être le... je ne sais pas, enfin, je suis un peu émue, voilà. Ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que vous pensez que la beauté, sans le regard de l'homme... c'est-à-dire sans ce regard, je préfère dire le regard plutôt que la pensée, sans le regard de l'homme, existe. Je veux dire par là, le monde n'est pas beau en lui-même, il ne l'est que parce qu'on le voit beau, qu'on le dit beau. C'est une pensée qui, enfin, c'est quelque chose qui existe depuis tout temps, on réfléchit là-dessus depuis toujours. Mais je trouve que, à travers ce que vous semblez nous, et ce que j'ai cru comprendre, le monde n'existe que parce qu'on le voit et qu'on le ressent et qu'on le nomme surtout. Est-ce que j'ai bien compris?
Je pense avoir, peut-être pas entièrement, mais je comprends à peu près votre propos. Ici, bien sûr, on le sait, le soleil couchant est beau. Mais si je le regarde pas, d'abord il reste beau, hein. Mais j'ai trouvé ça beau, c'est parce que je l'ai vu, hein. Et que je trouve ça beau, c'est subjectif aussi, ça peut être. Ça, c'est un débat presque éternel, hein. Mais j'essaie de renverser un peu l'optique. On connaît la grandeur de l'Occident, qui est fondée sur cette démarche duelle, fondée sur une sorte de dualisme, cela dès les Grecs. Hein. Quand je dis dualisme, c'est la séparation de la matière et de l'esprit, comme Platon l'a fait. C'est la séparation du sujet et de l'objet, comme Aristote l'a déjà commencé. Et puis, bien sûr, notre cher Descartes. Je pense donc que je suis, et puis l'homme est le maître et le possesseur de la nature. Donc, il y a cette posture extraordinaire d'un occidental qui dévisage l'univers, qui est l'objet de sa conquête. Cela a abouti, l'affirmation de l'objet a abouti à cet effort d'observation, d'analyse et puis de systématisation, c'est-à-dire une pensée scientifique. Et l'affirmation du sujet a abouti à cette notion justement de liberté de la personne et la notion du droit pour protéger le statut du sujet. Tout cela, c'est un apport extraordinaire que l'Occident apporte à l'humanité et qui continue à apporter à l'humanité. Maintenant, à un moment donné, justement, Descartes et par la suite, d'ailleurs, Kant étaient dans la même démarche, on aboutit à ce sujet qu'est l'homme, qui est séparé de l'univers vivant. Parce que l'univers vivant est un objet d'analyse et de conquête. En sorte que l'homme est devenu cet être superbe, bien sûr, mais déraciné. C'est-à-dire, on n'est plus relié à l'univers vivant. On est en face. On est en face. Il y a ce côté superbe et en même temps cette solitude. C'est-à-dire, l'homme, désormais, n'a plus à sa disposition que sa propre conscience, que son propre désir. Et donc, l'homme joue indéfiniment. Maintenant, l'homme joue dans le théâtre qu'il a arrangé et on joue ce jeu très intelligent, mais un peu morbide, c'est-à-dire ce jeu narcissique à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire, on n'a plus d'autre miroir que soi-même. Donc, on est cet être solitaire hein, qui se bat avec sa conscience, son désir, et on finit d'ailleurs par s'entretuer entre soi. D'ailleurs, Mallarmé, à la fin du XIXe siècle, a vécu cette expérience d'un homme déraciné et solitaire qui se bat nuit et jour avec sa propre conscience, sans autre. Alors, mais un beau jour, il y a eu quand même cette illumination. Il a écrit dans une lettre, je crois que c'est lettre à Casas, enfin j'oublie un peu les références. Il a dit, il a compris que si nous pensons l'univers, c'est parce que l'univers pense en nous aussi. Et à partir de là, il y a tout d'un coup cette prise de conscience qu'on peut se réintroduire dans ce mouvement circulaire. Donc, je donne l'impression de m'éloigner de votre question. En fait, je réponds un peu. Bien sûr, il y a cette beauté qui s'offre à nous. Bien sûr, c'est moi qui ai vu cette beauté. Et selon ma subjectivité, j'ai trouvé ça beau. Tandis que la chose même n'a cure de moi. Il n'a rien à faire avec moi. Pour moi, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, là, je me réfère... Passe trop de temps, je me laisse comme ça.
Non, après on prendra juste une ou deux questions, mais très concises. Et puis,
je n'ai pas fini.
Oui, je sais, mais je vous donne le programme. Et après, simplement, vous nous direz si pour conclure vous voulez un extrait.
C'est-à-dire, il y a une autre posture possible. En fait, en un mot. Maintenant, faire court, je fais un peu. On peut aussi considérer l'homme... là, je suis quand même obligé de faire ce petit détour par la peinture chinoise. Vous savez que la peinture chinoise, justement, il y a cette part qu'un occidental ne peut jamais comprendre. On admire ces grands paysages, mais il y a toujours ce petit personnage qui est là, complètement noyé dans la brume, perdu dans le grand tout pour un occidental, parce qu'un occidental a besoin toujours du concret, c'est-à-dire on est là, je suis campé dans mon salon, derrière moi il y a quelques paysages, mais le chinois il a cette lubie, cette audace de se perdre comme ça. Mais pour un chinois c'est pas tout à fait ça. Chaque tableau de paysage vous voyez un petit personnage, mais ce petit personnage est toujours situé à un point stratégique du paysage, presque comme une sorte de pivot. C'est-à-dire, quand vous commencez à contempler ce paysage, petit à petit, quand même, vous finissez par fixer votre regard sur ce personnage. Et vous finissez aussi par s'identifier à ce personnage. Et à ce moment-là, vous voyez que ce personnage, bien situé, il est au cœur du paysage. Il est l'œil du paysage. C'est autour de lui que le paysage tourne, s'organise, en sorte que son œil devient l'œil du paysage. Et en même temps, ce paysage devient son paysage intérieur. Et si on se met dans cette posture, on peut admettre que l'homme est le cœur battant et l'œil éveillé d'un univers vivant, et non pas cet être déraciné, éternellement solitaire, qui dévisage l'univers. En effet, si vous êtes dans cette posture-là, ce qu'on fait n'a rien à... l'univers vivant n'a cure de son regard, et en même temps, notre regard est toujours en pure perte. C'est-à-dire, vous dites c'est beau, mais le soleil couchant dit je m'en fous. Vous me dites. Or, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est pourquoi ça revient quand même à mon propos. Peut-être notre destin fait partie d'un destin plus grand que nous. Et comme ça, non seulement ça ne nous diminue pas, au contraire, ça nous agrandit. C'est-à-dire, notre aventure n'est pas cette aventure complètement absurde et futile entre deux poussières, vous voyez. Or, peut-être nous... Alors, donc, dans cette optique-là, notre regard qui perçoit la beauté donne un sens à ce que l'univers offre comme beauté. Et du même coup, nous prenons sens aussi. L'univers prend sens et nous prenons sens aussi, mutuellement. Bon, ça c'est...
Merci François Cheng. Y a-t-il une dernière question dans la salle, mais très concise, s'il vous plaît? Oui, madame.
C'est bon. J'espère que la... Enfin, je ne sais pas si ça va être si concis que ça, mais j'étais à côté, je suis venue exprès pour vous poser la question. Avant tout, je voulais vous remercier parce que j'ai peut-être un petit peu honte, mais moi, je ne vous connaissais pas. En gros, il y a eu de la lumière et je suis rentrée et j'ai bu vos paroles. Et voilà, je tenais à vous remercier. J'ai passé un très, très bon moment. La question que je voulais vous poser, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que le fait que l'homme soit doté d'esprit et en même temps puisse faire du mal était un mystère et que peut-être finalement... c'est parce qu'il est encore un petit peu, il est en devenir, comme vous avez dit, il a peut-être encore un petit peu de bestialité en lui qui pourrait expliquer ce mal. Mais moi, je suis étudiante en médecine, j'ai été amenée à lire des bouquins de sociobiologie qui est une matière très pleine de réductionnisme biologique, en fait. Un petit peu comme les cyniques dont vous avez parlé tout à l'heure, qui limite en fait les hommes à des organes, voilà, des choses comme ça. Et en lisant ces bouquins-là et en entendant ce que vous avez dit, je voulais vous poser la question, est-ce que finalement ce ne serait pas l'esprit et non pas la bestialité de l'homme qui serait la mère du mal qu'il peut faire? Parce que finalement chez les animaux, effectivement, c'est très cruel, mais les animaux n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Alors que nous, les hommes, au contraire, on a même un plaisir pervers parfois à faire du mal, à savoir que l'autre souffre. Et finalement, cet esprit... Je suis désolée, mais...
Est-ce que vous pourriez reformuler la question d'une façon synthétique?
Alors, cet esprit, en fait, est un cadeau à double tranchant, puisque... Bien sûr, c'est lui qui permet la liberté, mais d'un autre côté, comme vous avez dit tout à l'heure, on a un miroir. La conscience, finalement, on peut se reconnaître dans un miroir, un animal ne peut pas. Et ce miroir, quand l'homme a acquis la conscience pendant l'évolution...
Mais votre question, mademoiselle, excusez-moi, ce serait quoi?
Excusez-moi.
En une phrase.
Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'esprit qui serait la mère du mal et non pas la bestialité? Voilà. Désolée.
Est-ce que ce ne serait pas la raison, vous voulez dire, derrière l'esprit? C'est ça que vous entendez?
La raison.
Est-ce que la raison ne serait pas mère de tous les maux, plus encore que la part bestiale que nous portons en nous? si j'ai bien compris.
Ah non, la raison est indispensable. La seule chose, c'est il faut que ça soit une raison ouverte qui admette toutes les dimensions qu'on peut constater en homme et non pas une raison uniquement expérimentale. Mais la raison, bien sûr, est importante. Hein. Mais l'important, encore une fois, c'est une raison ouverte. Mais je n'ai pas compris tout à fait. Oui, probablement, ce n'est pas...
Mais peut-être après cette rencontre, si oui, vous souhaitez prolonger. Oui. François Tcheng, je note que vous avez sous le coude ce recueil magnifique qui s'appelle « À l'Orient de tout ». Et je voulais vous proposer de nous lire une toute petite chose, peut-être, pour conclure cette rencontre, si vous en êtes d'accord.
Combien de temps ? Une minute ou combien ? Non, mais dites-le-moi.
Lisez-nous quelque chose qui vous tienne à cœur.
Tient à cœur ? Non, parce que j'ai choisi un certain nombre. Non, là, c'est trop long. Bon. Dans ce cas, juste une petite prière. Tout à l'heure, j'ai dit, hein, je m'adresse à une transcendance, mais quelle que soit la transcendance, hein, ici, ce n'est pas... c'est tout à fait ouverte, c'est-à-dire je m'adresse à un mystère dont notre destin fait partie. Et donc, vous le acceptez comme, hein, comme de façon très libre. Hein. Nous voici dans l'abîme, tu en restes l'énigme. Si tu dis un seul mot, et nous serons sauvés. Tu restes muet encore, jusqu'au bout, semble sourd. Nos cœurs ont trop durci, en nous l'horreur sans fond. Viendrait-elle de nous une lueur de douceur? Si nous disons un mot, et tu seras sauvé, nous restons muets encore, jusqu'au bout, restons sourds. Te voici dans l'abîme, nous en sommes l'énigme. Merci.
Merci François Tcheng, merci à vous tous.